travaux sur les corps. C'est un des synonymes est psychose blanche. Alors, c'était une théorie qui visait à expliquer pourquoi il y avait des gens qui ressemblaient furieusement à des psychotiques, qui étaient complètement atymorphiques, mais qui pouvaient gérer la réalité, mais qui ne déliraient pas. Et donc tous ces gens ont été rangés dans un paquet qui s'appelait les psychoses blanches et qui ont donné naissance aux borderline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, fondamentalement, du côté de la question de la construction de la personnalité, ces gens ne sont pas vraiment loin, puisqu'ils sont à la limite des psychoses. Donc ce qui caractérise ces gens, c'est qu'ils ont très très peu de mécanismes de défense. Ils en ont quatre, qui sont les quatre qu'on a cités tout à l'heure, et forcément des mini-clivages riment très fort avec psychose. On pourrait dire, ça a été dit par exemple par un des grands psychopathologues de l'adolescence qui est Penaud, que le déni est typiquement un équivalent. Vous avez déjà entendu parler de la forclusion? La forclusion du nom du père, c'est donc dans la théorie psychanalytique ce qui forme la psychose, fait que la forclusion, autrement dit, ça ne serait qu'un déni, mais qui porte sur un truc particulier, qui est le nom du père. Donc autrement dit, le déni quand il porte sur le nom du père s'appelle la forclusion. Mais que le déni, c'est vraiment le prototype du fonctionnement du psychotique. Les borderline, il faut donc les concevoir dans la théorie qui a été pondue comme des gens absolument vides. C'est typiquement les gens qui peuvent fonctionner et tant qu'ils ont une coquille, un truc qui leur donne une personnalité, ils fonctionnent. Mais si vous leur retirez cette espèce de coquille sociale, eh bien dedans il n'y a rien. Ils sont intégralement vides. Dans ma carrière, deux exemples cliniques. Un prof de secondaire, prof de maths, il se fait que pour différentes raisons, il n'a plus pu être prof de maths, donc il était où il avait des questions. Et à partir du moment où il n'a plus pu être prof de maths, ce mec a sombré dans une dépression et est complètement vide. La définition de la dépression au sens du névrosé, c'est une perte d'objet. Il y a un truc qui était important dans votre vie. Votre poisson rouge, votre conjoint, votre bagnole, et vous avez craché votre bagnole, votre poisson rouge est mort, et en plus vous avez perdu votre conjoint. Il y a une crise de sens, il va falloir redéfinir comment vous allez faire sans cette bagnole qui franchement, tous les week-ends, vous la policiez, vous l'adoriez, vous lui faisiez des bisous, vous la déployiez, etc. Et cette bagnole a disparu, alors que vous aviez investi tout votre premier salaire d'assistant dans cette putain de bagnole. À la place de pour acheter une occasion de merde. Donc ça c'est un bête deuil que tout le monde a à faire, mais un deuil qui dure, parce que vous ne parvenez pas à vivre sans votre conjoint qui est décédé, et que c'était la prunelle de vos yeux, c'était vraiment le truc qui vous donnait sens, alors vous rentrez dans une dépression si vous ne parvenez pas à vous définir. Ce qui fait la limite entre les deux est juste l'impossibilité de faire le deuil. Une impossibilité de faire le deuil en psychopathologie, en psychodynamique, ça s'appelle une dépression. Mais une dépression n'est jamais qu'un deuil compliqué. Dans le cas de borderline, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas qu'il ait eu à faire le deuil du fait qu'il était prof et que « putain, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis à la pension, par exemple ?» Non, c'est s'il n'est pas ça, il n'est rien. C'est un grand vide sidéral à l'intérieur de lui. J'ai un autre. Alors, mon deuxième cas clinique était waouh, un type aussi fonctionnaire, banal, marié, des gosses aussi. Mais ce mec faisait une chose dans la vie dès qu'il avait 5 minutes, c'était escalader. Et donc, il s'était tapé l'Himalaya, l'Everest, Mons, tout. Sauf qu'à la longue, il a pété ses genoux. Et que le mec était incapable d'escalader quoi que ce soit. Ce type s'est flingué. Il s'est suicidé. Donc, un synonyme aussi pour borderline, c'est ce qu'on a appelé les personnalités as if. Les personnalités comme si. ça fait appel au jeu, bon, vous qui êtes de la génération PlayStation, peut-être que vous ne connaissez pas, mais on disait que nous on était les Indiens et que vous étiez les cow-boys. Vous avez joué à ça? Eux, alors lui, il disait qu'il était professeur. Le problème, c'est que s'il n'était pas professeur, il n'était rien. Alors, est-ce que ça a une importance? Oui, ça a une importance, de nouveau, parce que si on dit que la dépression n'est jamais qu'un truc qui se rajoute, et qui se rajoute sur une personnalité, ça veut dire que le pronostic de votre épisode dépressif majeur, même si on fait maintenant de la psychiatrie adulte, il n'est pas du tout le même. Si vous allez chez un bon névrosé qui doit faire le deuil de son conjoint avec toute l'ambivalence qu'il pouvait avoir de son conjoint parce que de temps en temps, quand même, il a pensé que s'il pouvait mourir dans un accident de bagnole, il aurait quand même bien à la paix, et bad boy, là que ça se réalise. Il doit faire le deuil de son conjoint, point. Mais il a d'autres choses dans la vie, et vraisemblablement, c'est un deuil qu'il va finir par faire. Par contre, l'épisode dépressif majeur, chez le type qui est en dessous a une personnalité de borderline, ça, c'est beaucoup plus catastrophique. Parce que c'est pas le deuil de quelque chose, c'est un vide sidéral qui est à l'intérieur de lui. Et donc si le premier vous pouvez le traiter avec un BET-SSRI, le deuxième, vous avez intérêt à rajouter des neuroleptiques. Parce qu'une des possibilités, je vais te donner la parole, c'est qu'il décompense évidemment sur un mode délirant à force de n'être rien, au moins il sera ça. Ouais.
Donc, par exemple, le patient qui dit que si elle n'est pas maman, parce que ses enfants sont partis, sa mère est morte, donc si elle n'est pas maman, elle n'est rien, qu'elle ne peut plus fonctionner sans ce rôle-là. Dans ce cas, on la mettrait dans quel.
Alors, je glisse un tout petit peu pour répondre à ta question. Tout à l'heure, je vous ai dit les ados borderline. En fait, c'est super difficile à faire un diagnostic d'ados borderline. Pourquoi? Parce que, pour une série de raisons, les mécanismes. Donc, l'identité, c'est les mécanismes de défense qui vous sont propres, d'accord? Ceux vraiment avec lesquels vous vous êtes construit. C'est vraiment ce qui forme votre identité. Mais à côté de cette identité, vous avez une personnalité qui est plus grosse, dans laquelle vous pouvez jongler avec d'autres mécanismes de défense. Vous pouvez vous adapter en fonction des circonstances et employer le bon mécanisme de défense au bon moment. Si vous n'avez qu'une identité et une identité pathologique, vous employez tout le temps le même mécanisme de défense, peu importe la raison extérieure. Ce qui veut dire qu'au fond, les mécanismes de défense, on les choisit en fonction de deux choses. En fonction de comment on est construit et en fonction du stress auquel on a affaire. Je vous le refais autrement. Un type pathologique, je vous ai dit, ça c'est la super définition de la santé. Mais une autre définition beaucoup plus simpliste de la santé, c'est quoi? Un type pathologique, c'est un mec qui a un mécanisme, j'exagère, mais un gros mécanisme de défense qu'il emploie tout le temps au même moment. Par exemple, il est psychotique parce qu'il ne peut pas être autre chose. Donc dès qu'il y a un stress, le seul truc qu'il sait faire, c'est délirer. Ce qui est pathologique, c'est qu'en fait, il sait faire que délirer. Mais s'il pouvait délirer, mais s'il pouvait aussi faire du refoulement ou faire autre chose, bah, il pourrait choisir le bon mécanisme de défense en fonction de la circonstance. Mécanisme de défense qui lui assure quoi? Le minimum de déréalisation possible, tout en limitant l'angoisse. Comme ça, il peut résoudre le problème qui l'a stressé. Le pathologique, il emploie tout le temps le même mécanisme de défense, peu importe le stresseur. Quelquefois, coup de bol, son mécanisme de défense va lui permettre de résoudre le problème. À d'autres moments, c'est complètement inadapté, et donc le mec il va se finir par se taper une crise d'angoisse, parce que le stresseur il va rester là. Donc un type pathologique dans cette définition-là du normal et du pathologique, ou plutôt le normal absolu, ça serait le mec qui a tous les mécanismes de défense possibles et imaginables. Bon, les psychanalystes ont été très très bons là-dessus, je crois qu'il y en a plus de 140 de mécanismes de défense. Hein. Je vous ai fait juste les gros, là je vous en ai fait 6 ou 7, mais si vous allez lire la psychanalyse, il y en a plus de 140, plus d'une centaine qui ont été décrits. Quoi. Le mec normal, dans l'absolu, ça serait le type qui possède tous les mécanismes de défense possibles et imaginables, et qui emploie le bon au bon moment. Donc, un mécanisme de défense, vous les choisissez en fonction de deux choses. Ceux qui vous sont préférés à vous, parce qu'un mec normal qui a tous les mécanismes de défense et qui emploie le bon au bon moment, ça n'existe pas. On est tous un peu quelque chose. On est tous dans cette théorie-là, ou un peu névrosé, obsessionnel, ou il y en a des plus hystéro, ou il y en a des plus anxieux, etc. On a tous nos mécanismes de défense un peu favoris. ça n'existe pas, le mec qui a mis 100 et qui n'en emploie aucun de manière un peu plus habituelle. No borderline à l'adolescence, il y a une série de circonstances, je peux les développer mais ça va faire peur, qui fait que dans l'adolescence, ce que la société et la famille poussent le plus les adolescents à faire comme mécanisme de défense, c'est des mécanismes de défense qui appartiennent au borderline. Et donc si vous voulez des borderline exogènes qui ont été créés parce que ben, il n'y a pas de place dans la société, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part du clivage et du déni, parce qu'ils doivent avoir un envie, ils doivent être exceptionnels si on écoute leurs parents, mais il y a le chômage et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'exceptionnel. Et donc on favorise d'une certaine manière dans notre société les mécanismes de défense de type borderline à l'adolescence. Et donc c'est super dur de faire un diagnostic de borderline à l'adolescence parce qu'il va falloir distinguer ce qui est engendré par les pressions extérieures et ce qui est plus propre à lui. Et c'était quoi ta question? J'ai oublié du coup.
Parce que vous disiez voilà, justement qu'ils perdent leur rôle, les borderline, quand ils perdent leur rôle, ils sont vides, ils se retrouvent avec plus rien. Donc si elle perd son rôle de mère.
Alors, oui, ta mère, c'est ça. Mais donc la question aussi, c'est est-ce que franchement, cette nana s'est construite sur le mode que sa seule identité depuis toujours, depuis qu'elle joue à la poupée, était d'être une mère, point barre, ou elle avait quand même d'autres potentialités, mais il se fait que parce que son mari était beaucoup absent et que tchika-tchik et que tchika-tchak, elle n'est devenue que une mère, mais qu'elle aurait pu être autre chose. Si elle aurait pu être autre chose, ok, ça va criser, ça va chier, on va avoir un syndrome de Lévite, mais il y a beaucoup de chances qu'elle puisse quand même se redéfinir parce qu'elle a quand même un peu d'autres cartes dans son jeu. Alors que si elle est maman depuis l'âge de 2 ans parce qu'elle jouait à la poupée, depuis l'âge de 2 ans, bah, on va avoir nettement plus de problèmes, effectivement. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les tocs. Alors, je ne sais pas si vous avez décortiqué le DSM-5, mais donc dans ce passionnant bouquin qui s'appelle Jusqu'où la psychiatrie 5.0, vous avez décortiqué l'histoire des tocs. L'histoire des tocs entre le DSM-4 et le DSM-5 est assez hallucinante. Les tocs sont classés dans quoi? Les quoi?
Je ne t'ai plus piégé.
Non, non, d'accord. C'est pas rigolo, tu ne t'es plus piégé. Les troubles anxieux sont rangés dans quoi? Les tocs sont rangés dans le DSM-4, les tocs sont rangés dans les troubles anxieux. Dans le DSM-5, les tocs sont à part. Les tocs ont obtenu dans le DSM-5 une place à part. Sauf que dedans, si vous allez lire la description des tocs dans le DSM-5, il faut tenir en plus compte, quand vous avez fait votre diagnostic de tocs, des insights du patient. Alors, les insights. C'est une vieille notion qui date de la psychiatrie des années 50, que plus personne n'a jamais employée, tellement c'est difficile à employer, et qui sont, autrement dit, votre capacité à vous considérer vous-même. Pardon ?
L'introspection ?
Ouais.
Plus ou moins
l'introspection, absolument. Et donc, vous avez des insights importants, et vous pouvez vous apercevoir que vous êtes complètement givré à checker 50 fois si vous avez bien fermé le robinet en sortant de chez vous, ou bien vous ne vous rendez pas compte et vous trouvez ça normal parce que vous avez quand même des doutes sur le robinet parce que franchement, là, il faut passer. Et donc, votre TOC, même dans le DSM-5, il oscille maintenant entre les troubles anxieux d'un côté, si vous avez des bons insights, et un truc plus psychotique de l'autre. Alors que ici, les TOC, bah, ils font partie de la névrose obsessionnelle, c'est un des mécanismes de défense. Et de nouveau, comme mécanisme de défense, vous pouvez avoir évidemment des tocs qui sont dans une bonne structure névrosée, mais vous pouvez avoir ce qu'on voit super fréquemment, c'est des défenses obsessionnelles chez des psychotiques qui se défendent contre quoi? Contre l'angoisse de morcellement. En particulier les schizophrènes, donc mon facteur, pendant qu'il distribuait cette lettre, il n'avait pas trop le feu, il fonctionnait. Et il pouvait checker ses petites adresses sur ses petites enveloppes, et pendant qu'il checkait les adresses sur ses enveloppes, pas de danger. Mais un TOC qui va survenir chez un psychotique va sans doute, d'un point de vue pharmaco-nouveau, pas du tout justifier le même truc que le TOC qui arrive chez mon névrosé. 4 ans. 4 ans, le gros mécanisme de défense qui se met en place, c'est le refoulement dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Et le refoulement, c'est le propre système. Le refoulement, c'est votre capacité à... Vous êtes face à une situation stressante, vous prenez les affects qui sont avec la situation stressante, vous les jetez dans le fond de votre tête et vous gérez. Donc, vous dissociez représentation et affect. Et vous jetez les affects loin, comme ça vous pouvez gérer la situation. Le truc classique des toupies. Vous devez faire un truc abominable sur un de vos patients, le charcuter, l'ouvrir et tout le machin. En plus, vous détestez le sang et vous allez tomber dans les pommes. Vous prenez tous vos sentiments, vous les jetez dans un coin de votre cerveau, vous comprimez le tout et vous gérez la situation. Plus on grimpe, plus c'est résistant à l'angoisse. Le refoulement est beaucoup plus résistant à l'angoisse que les déplacements et les focalisations. Qui est plus résistant que les rationalisations ? Qui est forcément plus résistant que les névroses d'angoisse ? Donc théoriquement, un névrosé hystérique est le mec super résistant au stress. Et on descend comme ça, de moins en moins résistant au stress. Il y a un mécanisme de défense qu'on apprend encore après, qui théoriquement... Alors, en fonction des bouquins, on l'apprend tout au début ou on l'apprend tout à la fin. Perso, je préfère le mettre à la fin. C'est la symbolisation. Alors, pourquoi ? Après, je vous raconterai pourquoi tout au début ou tout à la fin. La symbolisation est théoriquement ce qui vous amène le plus de capacité à gérer les stress. La symbolisation, c'est la capacité à donner un sens. Donc, l'histoire que j'adore raconter, c'est... Surtout ma banquière qui n'est plus là parce qu'il ne pourra pas me contredire. Merci, enregistré, nom de Dieu. Comment on fait pour effacer cette saloperie ? Vous trompez votre copain-copine en partant avec votre amant-amante dans un super petit week-end à Rome, en tête à tête. Vous baisez comme des bêtes. C'est le week-end génial. Le soir, vous vous faites un petit souper en tête à tête en amoureux aux chandelles sur la Piazza d'Espagne. C'est vraiment idyllique. Vous prenez l'avion pour rentrer en Belgique. Vous prenez votre SN Brussels at night. Pas de bol. Le vol se crache à la frontière entre l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Où est-ce qu'on enterre les survivants ?
Il n'y a pas de survivants. On
n'enterre
pas les survivants.
Non, je recommence. Vous, le vol se crache à Zaventem. Heureusement, à part le fait que l'avion prend feu et que tout le monde a eu une frayeur absolument bleue, il n'y a pas beaucoup de morts. N'empêche, il y en a qui vont avoir des PTSD, il y en a qui ne vont pas avoir des PTSD. Quels sont ceux qui vont avoir des PTSD ? Eh bien, dans cette théorie-là, ceux qui vont avoir des PTSD, c'est ceux qui ne peuvent pas donner un sens à « Mais putain, pourquoi est-ce que je devais être dans cet avion ?» Si vous pensez que c'est Dieu qui vous a puni parce que vous avez péché pendant tout le week-end, eh bien, vous n'aurez pas de PTSD. Si par contre, vraiment, vous savez pas pourquoi ça vous est tombé sur la gueule, vous aurez un PTSD. Et là, je termine là-dessus, on tombe sur la super expérience du chien de Sydenham. Tout le monde a déjà entendu, vous trois sûrement, vous avez déjà entendu parler du chien de Sydenham. Les autres, le chien de Sydenham, ça ne dit rien ? Tu as aussi entendu parler du chien de Sydenham, tu as oublié, faut vous en faire. On prend un chien, on l'attache sur une table. On connaît son sexe, son âge, et tatati. Et on branche la prise et on lui file 100 chocs électriques à intervalle de 10 secondes. 220 volts, 5 ampères. Ch'tac. Jusqu'à 10, ch'tac. Et on prend sa fréquence cardiaque en parallèle. Et on se dit quand même, ce chien, il n'est pas complètement con, bien que ça ne soit qu'un chien. Il va quand même s'habituer au choc électrique. Et il va percevoir qu'il ne meurt pas, puisqu'on va pouvoir le faire 100 fois. Donc il va s'habituer. Donc si sa fréquence cardiaque au début est super haute, elle va diminuer, elle ne va pas diminuer. Le chien, il reste super stressé. On prend un autre chien, même sexe, même race animale. Et plutôt que l'attacher sur la table, on le met dans une cage. Où on peut électrifier le sol de la cage par demi-cage. Et entre les deux, il y a une petite barrière, il peut sauter au-dessus. Et en prime, il y a une petite lumière qui, quand on envoie le courant, la lumière rouge s'allume. Et donc, on va faire la même chose. Le chien est à gauche, on va envoyer le courant à gauche. Très rapidement, le chien va capter que s'il saute de l'autre côté, il n'y a pas de courant de l'autre côté. Et donc, il va commencer à sauter de gauche à droite chaque fois qu'on va envoyer le courant dans les pattes. Et donc, on va mesurer sa fréquence cardiaque. Et on va se dire, il n'y a pas de raison que ça soit mieux. Et au contraire, ça va être pire parce qu'en plus, plutôt qu'être au repos, ce pauvre chien saute de gauche à droite toutes les 10 secondes. Et même pas du tout. La fréquence cardiaque de ce chien baisse très très vite. Et l'interprétation qui est donnée pour expliquer pourquoi la fréquence cardiaque de ce chien ne revient pas à la normale, mais elle baisse très très vite par rapport au premier, c'est que le chien pense qu'il a une solution. Il croit qu'il peut échapper au stress. Il croit que c'est parce qu'il saute de l'autre côté qu'il échappe au stress. En fait, il n'échappe à rien du tout, puisqu'il a exactement le même nombre de chocs avec la même fréquence. De toute façon, il va se faire ses chocs à intervalles de 10 secondes. Mais le chien croit qu'il peut sauter de l'autre côté. Vous pouvez croire que Dieu vous a puni parce que vous avez passé un super week-end à Rome. On s'en fout que ça soit efficace ou pas. L'important est de vous donner un sens. À partir du moment où vous avez donné un sens, vous allez limiter votre stress. Ça, c'est le mécanisme de défense qui est vraiment décrit. C'est les capacités de symboliser ce qui arrive dans votre vie, en particulier les choses auxquelles vous n'êtes pas préparé. Donc, pour conclure, à l'adolescence, vous avez une personnalité qui s'est prédessinée sur ses 0 à 4 ans. Avec à 4 ans, en plus des mécanismes identificatoires à vos parents, etc. Mais globalement, vous avez une première emballage, une première identité. Il se fait que cette question de cette première identité, parce qu'il va y avoir la poussée pubertaire, parce que vous allez avoir un corps à 12 ans qui est sexué, va entraîner une série de choses. Vous ne pouvez plus rester à proximité de vos parents parce que ça devient franchement malsain. Donc vous allez devoir mettre de la distance. Vos trains électriques, vos Barbie, votre PlayStation, c'était bien, mais finalement, les garçons, la blonde au premier rang à l'école, elle devient quand même vachement plus intéressante. Et pour les filles, les garçons des années supérieures deviennent vachement plus intéressants qu'aux Barbie et vos Ken. Donc, deuil des parents, deuil de votre enfance, et deuil d'une certaine bisexualité, où vous allez devoir maintenant vous ranger du côté des hommes ou des femmes. Ces nouvelles potentialités, mais aussi ce qu'elles représentent, à l'inverse, vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous êtes dans un risque incestueux majeur. Pourquoi ? Parce que maintenant votre corps est sexué, parce que maintenant le vieux plan de la tarte à la crème de l'Oedipe de tuer votre père pour vous faire votre mère, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité musculaire de tuer votre père et la capacité génitale de sauter votre mère. Et l'inverse pour les filles. Il y a deux périodes à risque incestueuses en pédopsie et en cycle d'adolescence. C'est 4 ans et c'est 12, 13, 14 ans. Donc, remise en route de... On s'est endormi sur le vieux plan de devenir mieux que sa mère, mieux que son père. À 12 ans, purée, corps sexué, repotentialité de remettre en scène ce vieux schéma ludique. Est-ce que je vais confirmer ou est-ce que je vais passer à autre chose et confirmer la façon dont je me suis construit? Et on va repasser et retester les différents mode de défense qu'on a acquis pour les fignoler de la même façon en respectant à peu près les mêmes étapes entre 12 et 18. Voilà pourquoi à l'adolescence on va plus s'intéresser au problème de personnalité et qu'on va considérer toujours la résonance entre les tactiques pour le pays conçu et la personnalité. C'est la personnalité qui va nous donner le pronostic de l'affection clinique ou au-dessus. Des questions une fois, des questions deux fois.
Vous disiez c'était avant ou après la symbolisation.
parce que si on dit que la première symbolisation est en fait une symbolisation qui est induite par ta mère, qui est de donner une place à ton père, de te signifier que tu n'es pas que son produit à elle, que tu es aussi le produit de lui, que tu es de l'entre les deux, que tu portes son nom à lui, c'est une forme de symbolisation. Et dans ce cas-là, il faut dire que les capacités symboliques sont induites dès l'âge de 0 à 6 mois. Et ce n'est alors une sophistication de ce mécanisme-là qui arrive aux alentours de 5 ans, qui sont les capacités symbolisées. Mais en même temps, c'est super dur de dire un truc pareil, parce que c'est un peu croire à Dolto qui parlait aux gosses in utero et qui pensait que les gosses comprenaient, quoi.
Mais non, parce que bon, quand on dit dans la psychose qu'il y a une défaillance du symbolique.
Absolument. Il y avait un autre bras, non?
Non, je suis pas sûre.
Bon, t'en fous. Hein.
Non, c'est juste que, parce que chez les borderline, on dit qu'on retrouve une grosse proportion de patients qui sont des abusés sexuels. Donc, du coup, est-ce que justement, il va y avoir une différence de former sa personnalité avec ou sans un abus sexuel? Est-ce que justement ça peut être déterminant par après?
Donc, les linguistes, et en particulier machin des tropiques, comment il s'appelle? Merci. Et c'est quoi des tropiques? Triste tropique. Triste tropique Lévi-Strauss. Donc, linguiste super connu. Essaie de démontrer la triste tropique que pour qu'une société existe, il faut deux interdits. Que si tu as ces deux lois-là, et que ces deux lois-là, bah, tu crées une société. Tu crées une société. Ces interdits sont l'interdit du meurtre et de l'inceste. Et l'interdit de l'inceste, dans cette théorie-là, c'est la même chose que l'interdit du meurtre. Pourquoi? Une mère qui génère un autiste, elle génère un autiste dans cette théorie-là pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle considère que son gosse n'est que le prolongement d'elle-même et donc ne lui permet pas de tester la différence et le manque. Mais aussi, parce que si ce malheureux gosse, donc, par pitié, vous prenez des pincettes avec ses descriptions cliniques, hein, la mère n'est pas forcément la mère, c'est n'importe qui est en fonction maternelle, et le père n'est pas forcément le père, c'est n'importe qui est en fonction paternelle, vous pouvez changer les sexes, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Donc c'est des images d'épinal pour expliquer. Et si ce gosse est trop différent, s'il fait des choses qui montrent son autonomie, qui fait des choses non attendues par la mère, non dans ses schémas, qui montre une autonomie par rapport à elle, elle va le haïr, le détester, et donc ce gosse sera tantôt la plus grande merveille du monde et tantôt l'être le plus haïssable. Elle le rend vivant quand elle l'aime, elle le tue, ne serait-ce qu'en mots, quand il est trop différent. C'est un meurtre symbolique. Forcément que si on le tue, c'est un meurtre total, donc il n'existe pas. Là, c'est un meurtre symbolique. Et le problème, si tu subis un inceste, surtout dans cette tranche d'âge-là, c'est que ça a différentes conséquences. On va le faire au féminin, mais on peut le faire au masculin. Un père saute sa fille. Donc, à cause du trou, on pense tous que c'est des gros monstres et des pervers et des machins. Alors, la majorité des incestes, c'est super loin d'être ça. La majorité des incestes, ça se passe dans les familles idéales, où ils sont gentils, sympathiques, où le papa est super proche de sa fille, ils se font des confidences, ils se font des guiligui. Et puis une fois, il y a un guiligui qui déborde, et tchikatchik et tchikatchak, et on passe à autre chose. Et surtout, ne dis rien, parce que sinon, papa va avoir des problèmes. et dans la complicité qui existe entre elles deux, elle ne va rien dire. Mais ce père, en sautant sa fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis sur un pied d'égalité d'un point de vue générationnel. Il a trouvé chez sa fille la compagne qu'il n'a pas dans la réalité, parce que sa mère, et puis ensuite toutes les autres descriptions des mères dans la famille, dans les femmes, ainsi de suite. Mais ça veut dire aussi qu'il s'est perdu comme père. S'il n'y a plus de différence générationnelle entre les deux, si ils sont égaux, il n'est plus son père. Mais donc elle a perdu aussi une assise d'un truc fondamental qui assure notre identité précocement. Je suis le fils de ou la fille de machin bidule dans telle et telle famille. En ça, un inceste d'autant plus précoce vient faire cette même chose que le meurtre du père. Il vient gommer une partie de ce qui te fonde, à savoir être la fille d'un père et d'une mère qui porte tel et tel nom et qui t'assure une place dans les générations, parce que cette place dans la génération est gommée parce que le père t'a mis sur un pied d'égalité et a gommé cette différence. Le cas clinique, vraiment, qui m'avait fasciné, donc, couple marié, machin, à 4 ans, papa, maman divorce. Le père est d'origine française, il retourne vivre en France. Madame se remarie à d'autres gosses, etc. Et le père vit à Paris, la mère vit à Namur. Il se fait que le père, malgré qu'il soit retourné à Paris, voulait garder une place auprès de ses gosses. Et donc, un week-end sur deux, ce type se tapait 250 km pour aller chercher son fils et sa fille. La fille était l'aînée, c'est important pour la suite de l'histoire. Et en plus, le fils était débile mental, infirme motocérébral, blessé. Et donc c'était doublement la grande sœur, puisque l'autre. Et donc il fait 250 km, il passe le week-end ensemble et il retape 250 km aller-retour pour aller à Paris. Et à l'adolescence, elle développe une anorexie, mais catastrophique, avec des poids abominables, etc. Et elle développe cette anorexie lors de sa première relation. Le phénomène déclenchant, si elle doit, elle, donner, c'est quand elle a fait la première fois l'amour avec son copain, quand elle avait 17 ans. Elle a vu la tête de son père à la place de la tête de son copain, et elle trouvait un dégoût absolument abominable, et puis elle avait dégoûté. Donc tout le monde se met à accuser, tout le monde, le père, je suppose que le beau-père était absolument ignoble et a fait peut-être des trucs, et le beau-père était ignoble de chez ignoble, c'était Cendrillon dans la famille. Et la mère accuse le père que sûrement pendant les week-ends, il s'est passé des trucs. Qu'est-ce qui se passait le week-end? Ce père et cette fille avaient un jeu qu'ils adoraient jouer tous les week-ends, c'était, ils jouaient à, elle était la petite femme de son père. Alors, il ne se passait rien de sexuel. Je suis sûr qu'il ne se passait rien de sexuel. Mais celle qui faisait le ménage, celle qui leur faisait à bouffer, celle qui s'occupait des petits frères qui étaient leur enfant. Et donc, elle jouait à être sa femme et être la maman de son frère. Et donc, il n'a même pas fallu, entre guillemets, il n'a même pas fallu qu'il y ait un acte incestueux en tant que tel. Mais l'abolition d'elle et sa fille a joué comme négation de ce qui te fonde à un moment important de ta construction de ton identité, la place dans les générations et tes rapports avec les parents. Donc oui, plus il y aura, c'est pour ça qu'on trouve des tas d'histoires sexe dans les psychoses et les borderline, c'est parce que ça vient supprimer au moins 50% de ce qui t'assure être un être humain, à savoir une place dans les générations, une place symbolique, une place respectée comme être désiré.
Et donc quand vous dites comme ça, en fait, vous dites de voir la personnalité, c'est ça qui donne le pronostic, mais du coup, voir la personnalité, c'est surtout voir avec les mécanismes de défense que vous avez développé.
Absolument.
Et donc, je veux dire, ça vous arrive d'interroger s'il y a une phobie, vraiment, quelque chose comme ça?
Absolument. Mais, tu n'as même pas besoin d'interroger parce qu'on va très vite te le raconter. Une fois que tu passes la couche supérieure, il faut débarquer à ta consulte et que tu les laisses un peu poser, très rapidement, ils partent du reste de leur vie. Et et du mécanisme de défense soit très facile.